Vous écoutez France Culture.
Aujourd'hui, la grande table d'été se fait ailes d'oiseaux et cornes de taureaux posées sur le toit d'une villa signée Joseph-Louis Sert. Aujourd'hui, la grande table s'égare dans le labyrinthe de Miro. Aujourd'hui, sous l'azur, parmi les cigales, il pleut des chefs-d'œuvre. Car nous sommes à Saint-Paul-de-Vence, à la Fondation MAG, à l'occasion des 50 ans de cette institution et de la grande exposition Face à l'œuvre. Nous déambulerons d'abord entre les sculptures et les tableaux réunis par Olivier Quéplin, avant de plonger dans l'histoire et la mémoire d'Adrien MAG, le fils d'Aimé et Marguerite, et de partager en fin d'émission les souvenirs de Yo-Yo qui raconte au micro de Marine Loyen sa version de la grande saga familiale. Et nous voici à l'orée du jardin complanté de sculptures et de pins parasols. Olivier Quéplin, directeur de la Fondation et commissaire de l'exposition du cinquantenaire, nous rejoint alors que vibre dans l'air chaud, à l'unisson des cigales, la voix d'Aimé MAG, enregistrée en 1964, quelques jours avant l'inauguration de cet étrange musée dans la nature qu'est sa fondation.
Pouvoir réaliser mon rêve, c'est de faire la galerie idéale, avec de grands espaces, des lumières étudiées pour bien voir la peinture, des grands espaces extérieurs dans la nature pour montrer la sculpture en plein air, et en même temps créer une sorte de cénacle, ou plus exactement un phalanstère, et j'espère pouvoir réunir, par exemple, inviter le poète, le musicien, le sculpteur, l'architecte, le graveur, en un ensemble international, et de façon que ces jeunes puissent travailler plusieurs mois ensemble et peut-être faciliter la réalisation d'un style de mon temps. Évidemment, c'est très ambitieux, je suis très orgueilleux, je le reconnais. Et je dois dire, lorsque l'on visite la fondation où l'on me félicite, je n'ai pas envie d'accepter ces félicitations, car je dois le dire égoïstement, j'ai réalisé ça pour mon plaisir.
Olivier Quéplin, il y a 50 ans, lors de l'inauguration de cette fondation MAG, André Malraux a posé cette question: la lumière de Vence est-elle meilleure que celle de Kyoto?
Je ne sais pas exactement ce qu'André Malraux voulait dire par là, si ce n'est qu'il voulait qualifier une qualité particulière qui serait, si on tire les conséquences, qu'il y a une lumière ici différente de celle de Kyoto. Alors cette lumière, en fait, elle a trois aspects, je dirais, c'est-à-dire qu'elle peut être d'une intensité, d'une clarté, qui fait que, par exemple, l'objet sur lequel elle tombe, le visage sur lequel prend un relief extraordinaire. Je pense qu'il s'agit là de la lumière qui a fait venir tant de peintres du Nord ici, c'est-à-dire cette qualité d'intensité et de clarté. Mais force est de reconnaître qu'elle est généralement dans cet état de lumière après les orages, après la pluie, après une série de troubles. Parce que la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que cette lumière est extrêmement changeante, voire troublée. Ici, c'est un pays où il y a des orages absolument terribles. Je suis d'origine brésilienne, je suis né au Brésil, je connais bien sûr d'autres pays dans le monde, et vous pouvez voir se déclencher des pluies du même type, c'est-à-dire que pendant 5 jours, il va tomber des cordes. Ça a été le cas en 2014, qui a vu 2 de ces arbres de ce parc où nous sommes s'abattre, car les racines des pins sont des racines peu profondes, et la pluie avait tellement raviné le terrain qu'un immense pin de 30 mètres s'est abattu, et un autre. Donc cet autre état de la lumière, c'est une lumière dans laquelle tout d'un coup l'ombre apparaît, et puis de nouveau la lumière. Et le troisième état de la lumière, j'ai envie de dire qu'il est contingent, et il est contingent à l'architecture. Vous savez que la plupart du temps en Provence, à cause de cette lumière ou parfois de cette chaleur, on faisait des toutes petites ouvertures et la lumière apparaissait comme une raie au milieu de la pièce. Il se trouve que la lumière existe selon l'architecture. Alors l'architecture vernaculaire que je viens d'évoquer, mais aussi les architectures contemporaines, modernes. Et je pense par exemple qu'il est très intéressant aujourd'hui, quand on est dans une architecture dans cette partie du territoire français, de voir l'économie de la lumière ménagée par les bâtiments. Par exemple, je suis frappé de voir que quand je vois la lumière ici dans ce parc, avec ce type de maison, avec la montagne d'un côté, la mer de l'autre, ça n'a pas grand chose à voir avec la lumière ménagée par le bâtiment de l'aéroport de Nice, où là au contraire, dès qu'il y a véritablement une lumière forte, malgré tous les moyens de la retenir, on est totalement pris, ébloui dans cette lumière-là, tout s'aplatit au contraire. Donc je pense que il y a ce rapport entre la lumière et on va dire l'architecture. Alors bon, que ça soit ici, il n'y a pas particulièrement eu de temple, mais il y a quelques traces de l'architecture romaine, il y a quelques traces de l'architecture cistercienne, il y a les églises romanes, et c'est cette autre manière dont moi je ressens et je reçois la lumière.
Et cette lumière changeante qui danse sur le parc où nous nous trouvons, sur les sculptures qui sont plantées et même d'une certaine manière amoncelées, Calder, Talcoat, Miro, il y a ces pins de 30 mètres que vous évoquiez, on est dans le royaume du visible, du signe, avec les sculptures, avec les peintures qu'on va découvrir qui sont à l'intérieur de la fondation, mais qu'est-ce qu'il y a d'invisible qui flotte, peut-être comme un Deus Ex Machina, ou peut-être comme la mort, si cher à Malraux, dans cet espace?
Alors je pense qu'ils ont pensé à la question du sacré. Je pense qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire un lieu qui allait être en quelque sorte un lieu où on a le sentiment de franchir une limite, de franchir, d'entrer quelque part. Alors bon, il y a une chose qui est claire, vous parliez de la lumière, là nous sommes entourés d'herbes vertes qui vient de subir la tempête d'avant-hier, mais d'herbes vertes, et là c'est très clair. Ils n'ont pas fait un parc qui est en correspondance avec la nature provençale. Ils ont essayé de provoquer ce sentiment d'entrer dans un autre espace par le vert du gazon. C'est une chose au fond qu'on connaît quand on va voir un match de football par exemple, et quand on arrive un peu avant le match, le vert du gazon avec la lumière des projecteurs dessus est absolument étonnant. Quand on a joué au billard ou quand on se souvient du billard, quand on arrive dans une salle et qu'il y a ce vert avec les lumières qui tombent dessus, on sait ça, c'est-à-dire que le vert a la capacité de créer immédiatement le sentiment d'un territoire, d'une enveloppe. En plus, là, il s'agit bien d'entrer dedans. Alors, je pense que c'est peut-être là qu'il y a de l'invisible chez eux, c'est que cette idée de faire un lieu, je pense, sans transcendance, honnêtement, Malraux était agnostique, on le sait, certes, je pense qu'il était en délicatesse, mais il n'a jamais renié le fait qu'il venait de la Catalogne et d'un lieu religieux. Il s'est jamais dit anarchiste comme son ami Miro. Et je crois aussi que Aimé Mag, enfin, il savait vaguement ce que pouvait être le sacré sans transcendance ou avec transcendance. Mais là, le sacré, à mon avis, n'est pas dans la direction d'une divinité. Je pense que c'est l'art. Alors, on a vu beaucoup de textes sociologiques ces 20 dernières années qui expliquaient que les nouvelles églises et les nouveaux temples, notamment pour l'Allemagne, c'était les musées d'art contemporain. Moi, je n'irais pas jusque-là. Je pense que c'est des gens qui savaient ce qu'était l'art, qui aimaient l'art, qui savaient que l'art, ça n'est pas une histoire d'objets d'art, que la circulation des objets d'art, le négoce des objets d'art, ça n'est pas l'art, et que l'art, c'est une aventure extrêmement profonde. Donc je pense que ils savent que l'art n'est jamais l'objet qu'on a devant les yeux. Vous parliez de ces sculptures. On est devant la constellation de Miro. Là-bas, il y a un artiste beaucoup plus jeune, Damien Cabanne. Là, il y a le Calder. Il est sûr que si devant ce Miro, qui s'appelle Constellation, donc il nous donne une indication, on ne voit que le grain qu'il a traduit dans le bronze, la boule qui serait, entre guillemets, le principe de mobilité d'une planète, le signe qui est une pure ligne qui traverse, pourrait être, je ne sais pas moi, une ligne d'un avion, d'une étoile filante, de tout ce qu'on veut. Si on se dit, on reste dans ce descriptif et dans ce matériologie, eh bien, je pense qu'on ne comprend pas très bien ce qu'est l'art. L'art n'est jamais l'objet qu'on a devant les yeux. Moi, je pense que même si on a un petit tableau qu'on met au-dessus de sa cheminée ou au-dessus de son divan, si c'est vraiment de l'art, ça ne sera jamais un objet décoratif qu'on va mettre comme une cafetière ou j'en sais rien, ou comme n'importe quel travail de couture qui représente un paysage. Donc, l'invisible ici, il est partout parce qu'il savait très bien que l'art, à travers ses formes, sculptures, peintures, constructions, c'est une porte d'entrée. D'une certaine manière, on sait que c'est ça pour les icônes. On sait évidemment que dans le cadre religieux de ce qu'est une peinture d'icône, le tableau n'est qu'une porte, n'est qu'une surface et qu'on traverse pour aller dans notre espace. D'une manière agnostique ou athée, Fontana, qui a actuellement une exposition au Musée d'art moderne de la ville Paris, la traversée de la toile avec la fente qui fait passer de l'autre côté de l'espace, à la fois révèle que le tableau n'est qu'un outil, une matière, et en même temps révèle qu'il n'est pas du tout ça, puisqu'on passe dans un autre espace. Et je crois qu'ils savent ça. Alors ils se disent, voilà, il y a toutes ces œuvres qui vont nous permettre le passage, de faire un pas dans un espace qui n'est pas l'espace de la fonction, de l'argumentaire. Vous savez, Lyotard disait que l'art n'avait pas à voir avec la philosophie argumentaire, n'avait pas à voir avec l'argumentaire. Non, ça n'a pas à voir avec ça, c'est une autre type d'expérience qui est peut-être ce que vous venez d'appeler l'expérience de ce qui n'est pas visible. Alors il y a beaucoup de... Paul Klee a dit « l'art, c'est ce qui rend visible hein, ». Bon. Mais plus que ça, si on pense à Malraux et à cette époque, je pense que c'est l'idée qu'il y a un autre espace. On va dire que l'espace de l'économie, de la vie, on va dire quotidienne et fonctionnelle.
Voici dans la première salle de cette exposition du cinquantenaire de la Fondation MAG intitulée « Face à l'œuvre ». Il y a plusieurs œuvres dans cette salle et pourtant, votre parti pris, Olivier Kaeplein, c'était de proposer un face-à-face singulier pour chaque spectateur avec chaque œuvre prise une par une. Et la peinture que vous avez choisie pour illustrer cette exposition, c'est ce tableau de Bonnard. Malraux, nous l'évoquions tout à l'heure, qui a participé à l'inauguration il y a 50 ans de cette fondation, qui a prononcé le discours inaugural. Malraux parlait du frisson sacré dans la rencontre avec l'œuvre d'art. Votre idée, c'est d'offrir une centaine de frissons sacrés pour les spectateurs ?
Oui, ça me plaît assez, cette idée-là. Et vous savez, ici, parfois, et ce n'est pas des propos de circonstance, j'ai vu des gens pleurer devant des œuvres d'art. Et bon, on sait que ça existe, c'est pas forcément le fameux syndrome de Stendhal, mais aussi un peu parfois perdu qui viennent poser une question. Je crois en effet que cette exposition telle que je l'ai conçue, je l'ai voulu comme cela. Vous voyez, il y a assez d'espace en chacune des œuvres. On ne peut pas entrer dans cette pièce et dire... Ah bah oui, ça c'est la pièce sur la représentation animale, ou c'est la pièce sur l'actu. Ah oui, ça c'est la pièce des chefs-d'œuvre. J'essaye de ne pas permettre dans aucune des œuvres qu'on ait ce sentiment, par le langage, par l'appréciation rapide, de dire, voilà, ça c'est ça et on le nomme. À chaque fois, il y a une œuvre qui vient contredire d'une certaine manière une œuvre qui est à côté pour qu'on ait l'obligation de se dire mais là, je suis devant l'été de Bonnard. Là, je vois des personnages assez étranges, un homme assis qui semble presque affalé, donc entre une position assise et une position couchée. Il y a d'étranges personnages sur sa gauche, une petite fille qui est presque, vous voyez, ses bras, comme ils sont disproportionnés. On a le sentiment que peut-être elle serait contrefaite, comme dans les photos de Diane Arbus. Ce petit chien, bien sûr, on peut penser à Carpaccio, mais c'est aussi un petit gnome. Enfin, donc devant l'été, ça on le sait, de Bonnard, plus que jamais, on sait que Bonnard n'est pas le dit peintre du bonheur qu'on raconte et que les choses sont beaucoup plus obscures et qu'on parlait tout à l'heure des arbres qui bougeaient un peu et qui annonçaient en tout cas la présence de je ne sais quel danger. Cet été est menacé par les frondaisons, par ce personnage qui apparaît au loin, on va dire peut-être par la montagne, et puis par ces étranges premiers plans avec une petite fille tout à fait, on va dire, dans la convention, mais à côté d'elle, de singuliers corps. Alors, si on regarde ça, on est pris dans cette atmosphère-là. Mais si on passe à côté, qu'on voit le Giacometti, le nez magnifique qui est le plâtre de Giacometti, il y a des bronzes qui ont été tirés, mais ça, c'est le plâtre qu'Adrien Mag a donné au Centre Pompidou, voilà quelques années. Alors, là, on est tout à fait ailleurs. On est dans la Commedia dell'arte, on est dans Pinocchio, on est dans le mensonge, on est dans le vieillard, on est dans Pantalone. Et voyez, dans la construction qui est celle-ci, évidemment, vous parliez du corps. Alors, tout à l'heure, là, il est clair. On connaît bien la fameuse histoire de Freud avec Fliss, qui a accordé tant d'importance à Fliss, qui racontait que le nez était, on va dire, du point de vue de l'économie générale du désir lié au pénis, etc. Et il est face à un nu merveilleux de Bonnard, lui aussi.
Donc c'est une face aussi freudienne de votre part.
Voilà, absolument. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que j'essaie de qu'on puisse regarder les
œuvres. On est comme dans un labyrinthe, en fait, à suivre aussi votre scénographie.
Oui. Oui, enfin, je pense que ma scénographie n'a qu'une idée, c'est d'être au service des œuvres et pas au service des quelques idées. Je suis simplement un sparring partner qui regarde les œuvres et qui se dit, mais il y a là des rapports qui peuvent être anecdotiques, comme celui que je viens de raconter, ou bien beaucoup plus profonds, c'est-à-dire ce que vous voyez n'est pas ce que vous voyez. J'ai mis cette phrase d'Apollinaire là-haut qui concerne Braque, parce que, en fait, Apollinaire dit, parlant de Braque, son esprit a provoqué volontairement le crépuscule de la réalité. Et donc, il s'agit dans toute cette pièce de ce moment où la peinture n'a plus du tout comme objet de dire la réalité telle que notre langage, notre expérience, enfin, tout ce qui fait la réalité pour la société existe. Et il dit, voici que s'élabore plastiquement en lui-même et hors de lui-même une renaissance universelle. C'est-à-dire que cette pièce est consacrée à l'art qui se pose, cette fois-ci, comme valeur universelle, ne renvoyant qu'à sa propre réalité, son propre réel. Et je pense que c'est valable pour ces scènes, ces dessins mythologiques de Braque qu'il grave dans du plâtre, blanc sur noir, mais c'est aussi valable pour cette étrange plage presque monochrome, où on voit bien que là, il va rejoindre cette idée que le paysage est métaphysique, en quelque sorte. Hein. Donc toute cette partie-là, j'essaye de faire voir œuvre après œuvre, que chacune soit, je vais reprendre vos mots, l'expérience d'un frisson sacré ou pas, mais en tout cas d'un frisson de la pensée et peut-être des sens, pour petit à petit amener à l'idée que la Fondation Mag, elle naît sur cette idée que tout d'un coup, l'art existe à travers un réel qu'il crée lui-même.
Et dans cette salle, dans cette première salle, où vous avez parfois vu des spectateurs, des spectatrices fondre en larmes, Olivier Képlin, quelle œuvre vous fait particulièrement frissonner, peut-être vous donne envie de pleurer? C'est cette plage monochrome inquiétante, ce sont au contraire ces vers, ces serpents multicolores de Calder.
Alors, dans cette salle, moi, à titre personnel, je n'ai pas envie de pleurer du tout. Je voyais, il y a aussi des... vous parliez de scénographie, bien sûr, il y a des croisements. Vous voyez que les animaux sont présents ici. Vous avez ce grand Derain, la chasse, où il y a des animaux qui jouent avec les hommes, des animaux peut-être plus dangereux, des animaux qui sont étrangers aux hommes. Et vous voyez, il n'y a aucun oiseau. Aucun oiseau. Par contre, vous regardez l'atelier, qui est donc un atelier mental de Braque, et l'oiseau est partout. Alors, est-ce l'esprit, est-ce l'inspiration, est-ce la représentation d'un volatile qui passe? Vous voyez, l'oiseau est là, l'oiseau est là. Et donc, il y a aussi des lectures comme ça. Ici, il y a le monde végétal, il y a le buisson de Matisse qui explose de rythme et de joie, en fait, créatif. Il est noir et blanc, mais c'est un buisson ardent, hein, aussi, de la création. Mais moi, l'œuvre que je préfère entre toutes, qui me crée la plus grande émotion, ce sont les petites sculptures de Calder. Ce sont des œuvres, en fait, elles sont quatre, et ce sont quatre animaux étranges. Trois réfèrent à l'idée du serpent, crinkly snake, et l'autre est une espèce de petite vache, hein, si on peut dire les choses comme ça, puisque c'est le nom qu'il donne, cow. Et nous avons, à travers ces personnages, une capacité à nous faire éprouver soit le mouvement reptilien, soit le mouvement d'arrêt. Cette vache est étrange. Elle pourrait être un animal simplement à l'arrêt qui surprend quelque chose. Et nous avons, par les couleurs et par la manière dont il crée la rythmique avec les plans diagonaux, une manière d'aspirer la vie, c'est-à-dire c'est une œuvre, ce sont des œuvres qui sont des odes au mouvement, et pour ça ils ne traversent pas des espaces énormes, ce sont des serpents qui ne sont pas habituellement les représentants symboliques du mouvement, dont il se saisit. Et avec ce jeu des couleurs, des angles, des blancs, des yeux, les positions de ces sculptures qui représentent des animaux, eh bien, je crois qu'on a un des plus bels exemples pour nous dire que l'art, c'est avant tout l'expérience du mouvement, plus que de la totalité.
Et précisément pour provoquer le mouvement du spectateur, pour qu'il quitte cette première salle, pleine, bien que vous en défendiez, de chefs-d'œuvre, il pourrait être rassasié, et non, il va continuer l'exploration de cette exposition. Et donc c'est la raison pour laquelle, à l'orée de cette salle, un peu à l'extérieur, vous avez accroché une figure humaine, et même l'image d'un couple qui s'embrasse.
Oui, c'est parce que vous savez, André Malraux, quand il fait son discours, et je partage tout à fait ses idées...
En 1964, mais... à l'inauguration de la Fondation.
Absolument. En 1960, quand André Malraux fait son discours en 64 à l'inauguration de la Fondation, il dit que ce qui s'est passé ici a en partie été fait par amour, par l'amour. Et évidemment, c'est la chose la plus importante de l'existence humaine, mais en art, je dois dire qu'il soit contrarié, qu'il devienne de la haine, qu'il devienne de la violence contradictoire ou qu'il devienne au contraire du désir, de l'embrassement, l'amour est une chose absolument essentielle. C'est pour ça que dans ce point un peu nodal où on entre dans cette pièce et on la quitte, donc j'ai souhaité mettre ce couple amoureux de Chagall avec aussi, vous verrez, vous la retrouverez, cette lune un peu jaune, qui met une note entre guillemets de lumière et de mélancolie sur cet étrange couple où l'homme est habillé, la femme nue, ce qui arrive relativement souvent dans la peinture. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'en fait, ils s'enlacent, ce sont bien des amoureux, mais leurs visages sont à l'envers l'un de l'autre. Et quel couple forment-ils? Ils ne disent pas quelque chose ni sur l'un ni sur l'autre, ils disent simplement l'amour et peut-être la mélancolie.
Et toute cette fondation peut-être n'est au fond qu'une histoire d'amour, puisqu'on dit la fondation Mag, mais c'est en réalité la fondation Aimé et Marguerite Mag. Et Aimé lui-même, je ne sais pas s'il était prédestiné par son prénom, mais on a pu soutenir l'idée que toute sa vie... il a cherché à être aimé des artistes, des plus grands génies.
Ça, je pense qu'on ne peut pas faire une fondation comme celle-là à l'époque où il l'a fait s'il n'y avait pas cet amour et cette passion. Oui, je crois que vraiment, il aimait les artistes, ce couple aimait les artistes, et il aimait l'art, il aimait, c'est-à-dire que c'est là, sans doute, dans l'art, que s'est concrétisé le plus ce qu'on peut appeler l'amour et entre guillemets, leur amour.
Des époux Mag, il y a aussi l'amitié qu'ils ont nourri, que les artistes ont nourri aussi pour eux. Là, on se retrouve dans le labyrinthe de Miro, avec ses sculptures qui s'égrènent tout au long du parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose de labyrinthique? Vous parliez de l'ombre de la mélancolie tout à l'heure avec ce couple amoureux de Chagall. Il y a aussi une ombre de mélancolie sur cette histoire lumineuse, joyeuse de la Fondation Mag?
Oui, de toutes les façons, l'art nous apprend qu'il est fait de ce désir, il est fait de cette capacité incroyable de sortir des formes, de créer, donc il est fait par amour aussi, mais évidemment, ça serait d'une imbécilité béate de croire qu'il n'y a pas sans arrêt la présence de son contraire et de la menace, hein, bien sûr. Et je pense que on a parlé tout à l'heure de la présence du tragique, qui est évidemment quelque chose que l'art pressent sans cesse. Mais voyez, la question, c'est que même une œuvre désespérée, je pense, même une œuvre extrêmement noire, à partir du moment où elle devient forme et elle s'exprime comme sens qu'elle veut transmettre à autrui, eh bien, pour prendre cette image, elle retourne le gant. C'est-à-dire, de ce qui est négatif, noir, mais qu'il faut transmettre pour dire ce désespoir, cette violence, etc., la forme va se charger d'énergie. Et je crois que ce qu'il y a de magnifique dans l'art, c'est que ce que nous éprouvons, même d'une forme terrible, eh bien, c'est l'énergie qu'elle porte dans sa volonté d'exister et de se transmettre. En gros, c'est l'énergie d'un acte de naissance, quoi.
Alors, vous dites ça dos à un œuf de Miro.
Voilà, absolument, qui évidemment n'a pas besoin de longues explications symboliques. Et donc, Miro sait aussi que l'art, alors contrairement, je pense, à une illusion, en effet, Rimbaud dit « l'art, c'est la vie », mais le signe égal ne peut toujours pas se mettre entre l'art et la vie. Bien sûr, si on fait de sa vie une œuvre d'art, où on essaye, tant mieux, mais la réalité, c'est que ça n'est guère possible et que l'art n'égale pas la vie. Alors c'est un labyrinthe. Alors il faut affronter les démons. Alors pour arriver au moment, par exemple, dans cette grande céramique de Miro où on voit le partage des continents, le partage des eaux, il va falloir franchir toute une série d'obstacles où on rencontrera peut-être, pour reprendre la tradition mythologique, un terrible taureau, où on rencontrera les Érinies, sorcières d'une cruauté totale. Donc, l'art est un labyrinthe. Donc, on va reprendre une pensée bien connue, extrême orientale, et donc un chemin aussi, et c'est le chemin qui compte plus que le but. Donc il pense que la Fondation MAG, eh bien, il faut qu'il y ait une œuvre qui dise ça. Alors il imagine ce labyrinthe, et quand vous entrez dans ce moment où on entre dans le verre comme ça, et que commence l'histoire, la visite, vous avez déjà la bande blanche qui part sur la droite comme ça, qui se perd, et que tout d'un coup on retrouve ici. Bon, c'est le fil d'Ariane, tout simplement, et d'étape en étape, dans cette œuvre qui est la première œuvre in situ de l'époque moderne. Je ne parle pas des fabriques du 18e, ou des folies, ou des choses comme ça. Là, nous ne pouvons rien bouger. C'est une œuvre en tant que telle, qui est absolument dédiée à ce paysage. Et évidemment, on la voit en voyant aussi derrière les montagnes qui sont là aujourd'hui, comment dirais-je, avec des gros nuages noirs au-dessus d'elle, les baous, mais on la voit avec la mer qui brille du côté du Cap d'Antibes. On est dans cette situation d'une terre méditerranéenne, on va dire. Et là, eh bien, on va rencontrer les personnages que l'on connaît un peu chez Miro. Donc là, l'histoire du partage des eaux, là, un arc de triomphe, mais qui est un arc de triomphe à la fois au cosmos, à la nature animale, peut-être toujours disons, au Léviathan hein, aussi, hein. C'est quelque chose qui est fait en béton, car Miro est un de ces créateurs qui ne va pas dire ah oui, moi je ne me sers que de matériaux nobles. Le béton, c'est le matériau de son époque, il le prend et fait une œuvre. Et en marbre, on va retrouver d'étranges poissons qui sont peut-être là aussi l'évocation de ce que peut être des Moby Dick. On va retrouver l'oiseau lunaire dont les cornes, alors tout d'un coup ça les adoucit, mais ça les projette dans le cosmos, sont un croissant de lune. En face, c'est une chevelure, en fait c'est la tête d'une femme traversée par des traits qui sont les traits des cheveux. Alors tout ça, c'est l'univers de Miro, et c'est aussi un univers qu'on pourrait tous partager, en tout cas les Bretons et les Méditerranéens par exemple, parce qu'en fait il explique très bien dans ce livre d'entretien avec Georges Rayard que sa grand-mère l'emmenait dans les forêts à Majorque et lui racontait qui les habitait. Alors c'est pas les farfadets, si vous voulez, mais ce sont les esprits, les animaux, les âmes, qui, etc. Bon, je disais les Bretons parce que tout le monde sait les feux follets, les farfadets. Enfin, c'est à peu près dans toutes les légendes. Donc ces animaux-là, ce sont les esprits de Miro qui vont être traduits en désir sexuel, qui vont être désir en amour, en rage. Miro est un être tout à fait étonnant parce qu'il est toujours très bien mis. C'est un monsieur à qui on a posé la question. Il dit « Moi, je suis toujours bien mis, toujours poli, parce que je suis un être convivial qui respecte les autres. » Mais quand il pense que c'est une manière de le dire, mais quand il parle profondément, on a d'expériences particulières, on a des expériences étonnantes. Par exemple, Franco va faire exécuter un Puigantich, un rebelle révolutionnaire, anti-étatique, etc. Et il peint, il est dans son atelier, il peint, et il dit « je peux pas me détacher de cette idée, mais quelle merde, etc. » Et disant cela, il raconte que tout d'un coup, eh bien, il décide de baisser son pantalon et de déféquer sur sa toile, et il dit j'ai fait ça, et j'ai peint, etc. Et puis il termine en peintre, et il dit « quelle belle matière, il faudrait que je l'utilise plus souvent, ou quelque chose de cet ordre-là, quelle belle matière, dit-il. » Bon, cet univers, donc, est à la fois un univers où il y a la menace, évidemment, comme celle qu'on vient de dire, donc une forme de désordre, en effet, et donc on ne peut pas imaginer que ce lieu soit quelque chose qui soit donné comme ça. Voilà, l'art, c'est pas quelque chose, ah bah oui, c'est formidable. Ça. Oui, il peut y avoir une commutation instantanée comme dans le monde digital aujourd'hui. Mais enfin, généralement, c'est plus l'affaire d'un labyrinthe. Oui. Thank you.
faisons route à nouveau vers les entrailles de la fondation, Olivier Quéplin. On quitte le champ des cigales, les graviers du labyrinthe de Miro. Il y a du son ici aussi dans la fondation, pas seulement des images, pas simplement des signes. Il y a la musique, chère à Aimé Mag, qui jouait du jazz et qui organisa des concerts mémorables. La musique organisée aussi, en particulier dans les années 1980, par son fils Adrien. Et vous, vous reprenez le flambeau aujourd'hui avec la famille Mag pour organiser une programmation musicale. Vous êtes non seulement un homme des arts, un homme de l'art, vous êtes aussi un homme du son, Olivier Quéplin, vous-même. Vous avez longtemps travaillé à France Culture, vous avez été son directeur adjoint, responsable des programmes. Nous évoquions hors micro tout à l'heure la dimension sonore. Est-ce qu'il y a une dimension sonore de la peinture? Il y a une peinture qui a un son particulier dans les œuvres que vous avez choisi de présenter au public dans le cadre de cette exposition du cinquantenaire?
Moi, je dirais que ça dépend de chaque spectateur. Mais personnellement, oui, j'éprouve cela. C'est-à-dire que quand je suis devant une œuvre, il y a cette expérience, donc une fois de plus, vous parliez du frisson, c'est tous les sens qui sont mis en jeu. On a parlé de Stendhal, on a parlé d'un homme qui pleurait devant pour être précis, un tableau de Jamel Tata lors de son exposition monographique. Je ne sais pas pourquoi ils étaient dans cet état-là, pourquoi cet homme pleurait. Enfin, je suis allé lui parler par curiosité, parfois je n'ose pas, mais il me disait qu'en fait, devant l'œuvre de Jamel Tata, tout d'un coup, les espaces abstraits étaient tellement vacants. Le sentiment de solitude, le sentiment de la mémoire lointaine, le sentiment du fait que on n'arrivait pas peut-être à rentrer en contact à cause de barres qui mettaient le personnage derrière. Tout ça lui évoquait au fond le destin humain, peut-être son propre destin, des souvenirs qui lui étaient propres. Et il disait que l'émotion était totale. Alors oui, il n'y a aucun doute, en tout cas pour moi, que le caractère sonore d'une œuvre est présent quand je la regarde. La première chose, je crois, quand on regarde une œuvre d'art, si vraiment elle vous touche, c'est que déjà le langage commence à déraper. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à parler et à dire, voilà, avant même d'avoir eu ce moment où tout se met en suspens et on est dans un aller-retour entre l'œuvre et soi. Ce qui va évidemment développer l'attention à ses propres sens, hein, je crois. Et c'est pour ça que, par exemple, je ne sais pas, on peut regarder Bacon ou s'il y a un son. Par exemple, si on prend ce portrait de Rudolf Nureyev, qui est un travail de peinture et de rature sur une photographie qui nous a été donnée à l'occasion de cette exposition par le collectionneur. Il est d'une telle violence que, évidemment, le son va être plutôt du côté de la metal machine music ou bien va être du côté du cri, du déchirement, en fait. Et on sait très bien que tous ces mots ont des sons, parce que dans notre mémoire, soit notre mémoire acquise, culturelle, soit notre mémoire réelle, nous les avons entendus. Donc, je pense que si on regarde Gazurowski, par exemple, là, vous voyez, j'ai mis l'œuvre de Barcello ici. L'œuvre de Barcello, qu'est-ce que c'est? C'est une sculpture qui est une sorte de crâne assez violemment sculpté entre le crâne humain, le crâne des singes anthropoïdes, enfin des singes, des premiers singes ou des premiers hommes. Et quand on le regarde d'ici, on a ce sentiment de matière sombre, remuée, et le son est grave et sourd. Et puis tout d'un coup, on regarde en face, et là-bas, de l'autre côté, il y a la tache noire de Gazurowski qui fait écho avec celle-là. Alors on s'avance, et là, le son va changer pour ce qui me concerne. C'est-à-dire que quand on arrive, on a déjà fait un tour dans la fondation, et tiens, on retrouve le taureau. Cette fois-ci, c'est le taureau de Lascaux, hein, celui qu'il a vu, qu'il est allé voir, sous lequel il s'est étendu dans la grotte, et il a dit « Ce jour-là, j'ai cru éprouver sur moi une pluie de peinture. » Et tout d'un coup, cette pluie, faite de jaune, d'orange, se répand à la matière d'un abstrait expressionniste jusqu'à cette tache qui est une sorte à nouveau de menace. Alors, le son, on va dire grave, sombre, cette espèce de coup de poing est là, mais cette fois-ci, il est pris dans une lignée où il n'est qu'un élément. Là-bas, il était tout l'élément de l'espace et de la forme. Là, il n'est qu'un élément, et donc on s'approche, on regarde ce jaune, admettons qu'on aille voir le titre, parce que nous sommes tout de même des êtres de langage, et on voit « Hommage à Manet ». Alors évidemment, on pense au torero mort, on pense au taureau. Et puis, si la vie vous a donné la chance de voir le tableau de Manet qui s'appelle « La botte d'asperges », les asperges, on retrouve le jaune, comme ça, donc qui n'est plus concentré sur un objet nommé asperge, mais qui s'étend exactement le même jaune dans un magnifique développement de peinture qui s'étend sur une surface semblable à celle de la grotte, immense, comme si au fond la petite couleur de Manet, jaune clair, devenait une enveloppe en fait, le ciel dans lequel, qu'est-ce qu'il nous dit Gazirovski ? Il nous dit, ben voilà, moi je ne suis pas un peintre contemporain. Je ne suis pas un artiste uniquement d'aujourd'hui. Ma vie commence là-bas, à Lascaux, et puis elle va au moins jusqu'à Manet, et peut-être jusqu'à aujourd'hui. Alors vous voyez que la violence du son de Barcello, ça vient, ça frappe, c'est devant nous, et là, au contraire, on entre dans une espèce de frise où on aurait une musique, je ne sais pas, je ne saurais pas quoi dire, peut-être comme pour Jim Jarmusch, par exemple, il s'agit de quelque chose de mobile, on est sur la ligne, vous voyez que j'ai mis là-bas de tapis, sur la ligne du temps qui passe, on avance. Alors, est-ce que c'est des propos de circonstance? J'en sais rien, mais il est vrai qu'une certaine musique électronique hein, qui maintient les rythmiques longues et qui nous donne le sentiment comme ça de mobilité et de progression, comme cette ligne en bas, va plutôt être le son auquel je vais penser, une espèce de bourdonnement en quelque sorte, et pas du tout un coup de cymbale ou pas du tout des dissonances comme sur Bacon et Nureyev. Donc, moi, je ne sais pas si j'ai un rapport particulier au son. En tout cas, j'aime le son et je ne conçois pas ni l'art ni la vie sans le son.
Alors qu'Olivier Quéplin reste à contempler les œuvres de Barcello et Tapiès, les oreilles bourdonnantes, le petit équipage de la grande table d'été s'éloigne et monte dans les étages pour retrouver Adrien Magg, qui nous a donné rendez-vous pour un grand entretien parmi les incunables de son père. Mais d'abord, voici l'heure de la chronique d'Aude Lavigne. Aujourd'hui, dans « À première vue, Aude Lavigne s'entretient avec la journaliste aux arts incorruptibles, Claire Moulaine.
Claire Moulaine est journaliste aux arts incorruptibles, en charge des rubriques art et politique culturelle. Elle est également rédactrice en chef de la revue Initiale, éditée par l'École des Beaux-Arts de Lyon. Active, sur le terrain, grande arpenteuse d'exposition, elle répond au téléphone à notre question. Quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain? Et à première vue, Claire Moulaine répond.
Alors en fait, je pense que je vais plutôt vous raconter une rencontre avec une personne plutôt qu'avec avec une œuvre. Ça se passe au début des années 2000, donc je suis encore étudiante. Je termine mon mémoire de fin d'année à Sciences Po, qui porte sur la question de l'intime dans l'art contemporain. Pour ce mémoire, je rentre en contact avec Paul Mangette, qui est un artiste. Alors, je ne me souviens plus très bien comment je découvre son travail, mais je sais que ses œuvres me marquent. C'est des images assez sulfureuses de jeunes filles plutôt dénudées. Voilà, il se trouve que donc je prends contact avec Paul Mangette, qui me répond très gentiment et qui me propose de venir chez lui dans son appartement dans le Marais. ce moment-là, donc c'est un moment important parce que avant ça, pour moi, l'art, c'est d'abord, disons, la question de la narration qui m'intéresse, parce qu'avant de faire Sciences Po, j'ai fait des études littéraires. Donc, je suis évidemment plutôt fascinée par des gens comme Sophie Calle, par exemple, qui m'intéresse beaucoup. Et avec Paul Armanget, tout d'un coup, je découvre ce que c'est qu'une image. Et une image pour l'image, quoi. C'est-à-dire une image avec une forme plastique, une poésie aussi, évidemment. Même si, évidemment, chez Paul Armanget, après, il y a toute une mise en récit, c'est-à-dire qu'il construit des séries qui racontent une histoire. La plupart du temps, c'est une histoire autour d'un modèle, d'une jeune femme qu'il suit. Et puis je découvre aussi avec son travail la question du process, c'est-à-dire il me raconte comment ce qui est au cœur de son travail, c'est la question de la liberté du modèle. Donc comment les jeunes filles qu'il photographie choisissent en fait le lieu de la photographie, le décor, la pose, elles choisissent de se dénuder ou pas. Enfin, c'est vraiment elles qui se guident en fait. Donc ça, je trouve ça évidemment très intéressant et très très touchant aussi. Et puis, il se trouve que ce jour-là, Paul Armanget me fait une surprise à son tour. C'est-à-dire qu'il il voit mon nom, Claire Moulaine, et il décide d'inviter son ami qui est Jean-Luc Moulaine, que je ne connais pas du tout à l'époque. Enfin, je connais quelques-unes de ses images, qui est un artiste, un photographe. Et donc Jean-Luc est là, on se rencontre. Donc évidemment, c'est assez drôle, assez émouvant aussi, puisqu'on se rend compte qu'on est de la même famille, en fait. Et il se trouve que pour moi, Jean-Luc Moulaine va devenir après quelqu'un de très important. Pour moi, c'est un des boulots les plus importants aujourd'hui en France. Donc il y a cette espèce de double rencontre, cette surprise qui surgit, qui moi me touche beaucoup.
C'était à première vue la chronique d'Aude Lavigne. Fondation MAG, qu'en 1970, Albert Ayler enregistra en public par une chaude nuit d'été son morceau Holy Family, une version très free de l'histoire de la Sainte Famille qui résonne étrangement avec les souvenirs d'Adrien, 84 ans, le patriarche de la dynastie MAG, fils unique par accident et pour qui, enfant, les rois mages s'appelaient Miro, Braque et Giacometti.
Ça, c'est Giacometti, moi, qui a fait le livre sur la Douchine, Maria Duras. Ça, c'est chez moi, du bac. Ça, c'est pour mes 30 ans, avec Prévert. Ouais. Ça, c'est également un anniversaire avec mon père, ma mère, moi. Clayeux, qui a été directeur de la galerie de mon père pendant longtemps. Ah, cette photo est importante. C'est la veille de l'inauguration de la Fondation. Et là, il n'y a vraiment que les gens qui étaient près de nous. Après, ça s'est développé, il y en a eu beaucoup. Mais là, vous avez Ubac, mon père, ma mère, Clayeux, Palazuelo, Talcoat, José Luis Sert, Miro, Artigas, moi, Chilida et le fils d'Artigas. Ça, c'était vraiment les tout premiers. Ça, c'est une belle photo de mon père. Je n'ai pas qu'à faire. Je n'ai pas qu'à faire cette photo. Ça, c'est mon père et ma mère. Ça, c'est un peu avant que ma mère ne meure. C'était en 76.
Au pied du calvaire.
Ça, c'est mon père et ma mère. Ça, c'est quand mon père était là à New York. Mon père était un bel homme. Très élégant. Très, très élégant. Ça, c'est une belle photo de Braque. Mon père avec Braque. Alors voilà une photo que j'ai fait moi. C'est Bonnard avec mon père au Canet, dans la petite maison que Bonnard avait au Canet. Ça, c'est une photo avec Pompidou, Mme Pompidou, qui était fidèle, il venait souvent ici. Ça, c'est le jour de l'inauguration. Il y a Malraux, il y a mon père, il y a Chagall. Et ça, c'est Miro avec mon père.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, parce que le malentendu va croître et embellir, en aucune façon un musée.
André Malraux.
Lorsque nous regardions tout à l'heure le morceau de jardin où sont les miroirs, il se passait la même chose que lorsque nous regardions la salle où étaient les Chagall. Ces petites cornes que Miro réinvente avec leur incroyable puissance onirique sont en train de créer dans votre jardin, avec la nature au sens des arbres, un rapport qui n'a jamais été créé. Quand nous parlons de fondation, la plus célèbre fondation américaine, c'est-à-dire Barnes, si elle était ici, elle n'aurait aucun rapport avec ce que vous avez fait. Elle serait en arrière de 50 ans, car, admirable comme elle est un musée. Mais ici, est tentée, avec un résultat que nous n'avons pas à juger et qui appartient à la postérité, est tentée quelque chose qu'on n'a jamais tenté, créer l'univers, créer instinctivement et par l'amour, l'univers dans lequel l'art moderne pourrait trouver à la fois sa place et cet arrière-monde qui s'est appelé jadis le surnaturel.
Aujourd'hui avec vous, Adrien Mag, nous sommes assez loin de Paris et des querelles entre surréalistes dans les galeries au moment de la libération, en 1947 en l'occurrence. Nous sommes dans cette fondation Mag, inaugurée en 1964, en compagnie de grands noms, parmi lesquels bien sûr André Malraux. 10 ans plus tôt, en 1954, votre frère cadet meurt, et dit-on, c'est à la suite de cette disparition que va germer dans le cœur, dans l'esprit de vos parents, l'idée de cette fondation.
Oui, mon petit frère Bernard est mort en 1953. Il est mort en novembre 1953. Il était très... Moi, j'ai adoré, il est mort dans mes bras d'ailleurs. La mort de Bernard a bouleversé complètement la vie, la routine, comme on pourrait dire, de la galerie. Mon père avait déjà fait une petite fortune. Il avait des grands artistes qu'il avait suivis. Et il avait envie d'arrêter de travailler. C'est comme ça que Léger lui a conseillé de partir aux États-Unis, faire la tournée des grands clients, parce que les plus gros clients étaient américains. Et quand il est revenu, il avait vu les fondations Barnes, les fondations à Washington, la fondation Chrysler, toutes ces grandes fondations. Et il disait de faire un lieu où il réunirait sa collection, pas pour faire un musée, loin de là. Ici, ça a été... C'est pas très grand, la fondation. C'est relativement petit comme surface. Il voulait réunir dans la fondation les plus beaux tableaux qu'il avait toujours conservés. Et au départ, la fondation devait être réservée à des invités, des chercheurs, des étudiants, des gens qui écriraient pour demander un rendez-vous. Et quand c'était inauguré, il y avait tellement de monde le lendemain à l'entrée qui voulait rentrer que ma mère, comme toujours ma mère pratique, s'est installée sur une chaise avec des... un cœur de la souche de boucher, elle donnait ça, dès qu'elle avait mis un coup de tampon, elle faisait rentrer les gens avec, je vous dis, 5 francs, je crois, en disant, bon, ils vont venir pendant quelques temps, puis après, ils se lasseront. Or, dès le mois de novembre, nous avions déjà fait près de 30 000 entrées et on n'a jamais pu fermer la gare de la Fondation.
I look for my heart, it's Perdido. I lost it way down in Torito. The day the fiesta started, Bolero, I swayed as they played a bolero. I kissed me the listing sombrero, and that's when my heart departed.
Le jour de l'inauguration, en 1964, il y avait de nombreux invités, parmi lesquels des musiciens, et notamment des musiciens de jazz, et Ella Fitzgerald, qui a chanté, dit-on, le soir pour ses invités. Votre père était féru de jazz. Il anime déjà dans sa jeunesse un orchestre local.
Tout à fait, oui.
Pour vous, la musique qui est associée à cette fondation, à cet espace, à cette région, c'est laquelle ? C'est du jazz, comme votre père ?
D'ailleurs, mon père était passionné de musique, comme moi. Moi, j'étais passionné de jazz. À l'époque, on considérait le jazz un peu comme une musique secondaire. Aujourd'hui, je me rends compte que le jazz a ses lettres de noblesse. Et que c'est la vraie musique populaire du XXe siècle. On peut dire tout ce qu'on veut du jazz, que c'est facile, tout ça, c'est pas vrai. Le jazz, moi je suis passionné de jazz, et mon père encore plus que moi. Donc il avait un client qui s'appelait Normand Granz, qui était le manager d'impresario de Fitzgerald, de Armstrong, de Duke Ellington, de Fats Waller. Et il nous a amené Ella Fitzgerald qui a chanté 6 chansons et Montand qui a chanté 4 chansons.
Yves Montand qui était là aussi.
C'était un ami, un grand ami, Montand.
Et alors aujourd'hui, pour ces 50 ans de la Fondation, s'il y avait un morceau que vous devriez mettre, que vous mettriez sur le pick-up, ça serait quoi ?
Ah, ça... Je pense que je mettrais peut-être Satie. Parce que pour moi, Satie, il est pas loin du jazz. Si vous écoutez Parade et que vous écoutez Gershwin, il y a quand même des similitudes. Parade a été un déclencheur d'une forme de jazz. C'est peut-être idiot de dire ça, mais moi je le pense. Donc je mettrais Satie en tête avec Gymnopédie, évidemment, que tout le monde connaît, ou les petites valses de Satie qui sont des petits bijoux, les valses Je te veux, tout ça. Et ensuite, ben, je pense que je mettrais peut-être Duke Ellington, peut-être. Oui, un que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai écouté en 1947, quand il est venu à Paris, c'est Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, il a un peu secoué le jazz à cette époque-là. Il a un peu secoué le jazz, il a fait rentrer des harmoniques qui n'étaient pas celles du jazz habituel. Et il a fait, pour moi, c'est les deux principaux acteurs de l'histoire du jazz de haut niveau.
Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de suivre votre père, mais de le suivre dans l'une de ses nombreuses passions, à savoir l'édition en particulier ? Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette branche-là, plutôt que la vente de tableaux, ou peut-être que la radio, le commentaire sportif ?
D'abord, la vente de tableaux, c'est mon père qui s'en occupait, je n'avais pas l'âge. Moi, j'ai quitté... Quand on a quitté Cannes en 1943, j'avais 13 ans. J'allais au collège Stanislas, j'étais un bon élève, j'apprenais le piano, enfin, enfant de commerçants, de bourgeois. Et à partir de ce moment-là, je ne suis plus allé à l'école pendant 3 ans. Quand je suis rentré, quand on est arrivé à Paris, mes parents m'ont mis dans un cours où j'ai jamais été si malheureux de ma vie. Les enfants sont durs entre eux, hein. Ils sont méchants. Et moi, j'avais mon petit accent du midi. Je disais un estilo, une statue. Donc, ils se moquaient beaucoup de moi. Et puis, en décembre 46, j'ai dit à mon père, moi, je ne peux plus retourner à l'école. Je pleure tous les soirs. Je préfère faire femme de ménage, ce que tu veux, mais je pleure à l'école. Donc, mon père, ça l'a arrangé parce que la galerie à Paris, au départ, c'était trop difficile. Mes parents ont tout vendu ce qu'ils avaient, comme immobilier, comme biens, sauf les tableaux, pour ouvrir la galerie de Paris. Et là, j'ai fait, pendant quelques années, au départ, je faisais un peu tout. J'avais une moto, je faisais le coursier, je faisais la relation entre les artistes et les imprimeurs entre mon père, entre les poètes. Donc là, j'ai mené une vie tout à fait passionnante parce que je voyais, par exemple, Giacometti, quand il a fait sa série d'eau forte, qu'il a appelé l'atelier, tous les matins, j'allais chez Giacometti chercher le cuivre qu'il avait gravé pendant la nuit. Je l'amenais chez un graveur qui s'appelait Bizan, et je revenais ensuite l'après-midi, je lui amenais le bon à tirer. Et puis, mon père a voulu que les éditions se développent, et à partir de ce moment-là, j'étais à 100% dans les éditions.
Mais alors, un tout jeune homme comme vous, au moment de la Libération, Adrien Mag, qui quitte l'école et qui se retrouve à l'école de la vie avec des artistes, des peintres, des poètes, est-ce que ce n'était pas un peu une mauvaise éducation? Parce qu'ils ne sont pas réputés, tous ces gens-là, pour leur conduite.
J'ai une éducation, je n'ai pas été sur l'éducation de tout le monde, c'est certain. Je fais des fautes d'orthographe, mais par contre, je peux dire que j'ai connu Braque, j'ai connu Giacometti, qui m'ont appris bien autre chose que l'orthographe, et c'est ce qui m'a servi dans la vie d'ailleurs.
Que vous ont-ils appris, Braque, Giacometti,
Braque,
par exemple?
Braque, il m'a appris à être toujours très, très soucieux d'être correct, de ne pas tricher. Giacometti m'a appris, évidemment, tout le mystère de l'art, de la passion, une forme de vie de l'art qu'on ne connaît pas toujours. Giacometti était un homme à la fois très bon et très dur. Il n'acceptait pas à peu près. Quand j'ai mis des fois des bois à tirer qui n'étaient pas très bien faits, il me le faisait savoir. Il me dit, tu n'aurais pas dû me l'apporter. Tu aurais dû de toi-même voir qu'il n'était pas bon. Et puis l'ambiance aussi, cette ambiance formidable des artistes qui parce que ils aiment tous la vie, les artistes, ils aiment la vie. Ils ont leurs problèmes, comme tout le monde, mais ils sont complètement dans la vie. Surtout, il y avait les poètes, parce que, comme dans un livre, il y a toujours un éditeur, un illustrateur et un poète. Les livres d'art, je parle.
C'est ce qui fait la spécificité du travail de votre père, d'avoir toujours associé, imbriqué, intriqué les mots et la peinture et le dessin.
Mon père était très fier. Il disait, c'est que dans l'édition, où mon nom restera imprimé. Dans un livre, comme vous avez ici ce livre de Miro, eh bien, il y a marqué Miro, Zara et Memag. C'est formidable parce que ce livre vous met au niveau de ces grands artistes et de grands poètes. Le livre de Malraux avec Chagall, c'est pareil, hein. André Malraux, Marc Chagall et Memag.
Et moi vous l'avez sous la main d'ailleurs ce livre.
Ce livre-là, c'est quelqu'un.
C'est Chagall.
Ça, c'est le livre avec Malraux, justement. Alors, c'est magnifique. Voilà, et sur la terre. C'est un livre qui réunit la seule fois où Malraux a travaillé Chagall. Voilà, vous voyez. André Malraux, le titre du livre, Au fort de Marc Chagall, et Mag éditeur. Et ce Mag éditeur, c'est extraordinaire. De pouvoir être associé à ces deux grands noms, vous vous rendez compte. Malraux, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire j'ai mon nom associé à Malraux. Et ça, s'il n'avait pas fait de livre, ils ne les auraient jamais fait. Ils n'ont jamais eu son nom marqué comme ça. Donc, tous ces livres, c'est moi qui m'en suis occupé. En tant que technicien, si vous voulez. Et puis, en 1956, j'ai quitté mon père. Ça, c'est un problème de génération. Il avait ses amis qui avaient son âge. Moi, j'avais les miens qui avaient mon âge. En 56, j'avais 26 ans. J'avais des copains, j'ai bien des copains, artistes peintres, que mon père n'aimait pas. Et finalement, j'ai préféré quitter mon père, ouvrir ma petite galerie, où, avec orgueil, je n'ai rien demandé à mon père. Et j'ai monté ça, ça. Et surtout, j'ai ouvert en 1963 l'imprimé Arte. Parce que, à force de voir tous ces poètes, tous ces écrivains, tous ces artistes, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'art était très dispersé. Un artiste qui voulait faire un livre, il fallait qu'il choisisse de faire un livre en lithographie. Donc il fallait qu'il aille chez Moreau. Bon. Moreau, il y avait Picasso qui travaillait, donc on ne peut pas s'occuper de ça. Il voulait faire un eau forte, ben, il fallait chez Visa. Visa, il avait Chagall qui faisait des gravures. Donc j'ai compris qu'il fallait apporter aux artistes le moyen de faire leur œuvre graphique. Parce que l'œuvre graphique est très importante. C'est une œuvre originale. Et cette imprimerie, je l'ai ouverte dès le départ en choisissant de réunir dans un même lieu toutes les techniques que les artistes peuvent avoir envie d'utiliser pour faire leur œuvre graphique. Et dans cette imprimerie, j'avais la lithographie, la taille douce, l'eau forte, l'offset, la typo, l'hélio, même l'offset qui était un procédé qui commençait à prendre de l'importance. Et Miro a fait des lithographies, des œuvres graphiques, où on retrouve trois procédés mélangés. Là, vous avez devant vous, ce n'est pas une reproduction, c'est une planche de Miro qu'il a fait en utilisant un procédé que j'avais mis au point avec un jeune peintre qui s'appelait Volz, le carborandum. À l'époque, ça n'existait pas. Et l'œuvre de Miro et de ta pièce doivent beaucoup à l'invention du carborandum. Donc, ma passion, c'est de tout transférer ma passion sur l'imprimerie.
Alors précisément, là on a cet ouvrage de Chagall et Malraux édité par les éditions MAG en 1977 sous les yeux. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'édition d'un livre rare, d'un livre d'art comme celui-là ?
Mais d'abord, il faut dire qu'il y avait à l'époque des bibliophiles. Il y en a moins maintenant. Mais il y avait beaucoup de bibliophiles qui attendaient la sortie de très beaux livres. Et par exemple, il y a eu une exposition à la Bibliothèque nationale, les 50 plus beaux livres du siècle. Et dans ces 50 plus beaux livres du siècle, il y avait 4 livres édités par mon père et un livre édité par moi. Et je suis trop fier. C'est la guerre d'Espagne. C'est un livre sur la guerre d'Espagne. Et là, on voit des eaux fortes originales. C'est sur cuivre, une eau forte, c'est sur cuivre, que Chagall a fait pour illustrer le texte de Malraux. Voilà les autres. C'est un livre intéressant. Le texte est très beau parce que Malraux c'est toujours très beau. Et les eaux fortes qu'a fait Chagall sont très belles. Mais on a fait des livres extraordinaires. Le Paracel de Miro. Paracel, c'est un texte de Zara. Il a fait un livre sublime. Qui est d'ailleurs un des 5 livres sélectionnés pour les 50 plus beaux livres de l'année. Il y a eu un livre de Calder et Prévert, magnifique.
Face à l'œuvre, l'exposition du cinquantenaire est à découvrir jusqu'au 11 novembre, tous les jours, à la Fondation MAG.
La Grande Table, c'est aussi l'été, avec Martin Kénéen.
À présent, pour parachever cette expédition de la Grande Table d'été dans l'histoire, la mémoire et le bel aujourd'hui de la Fondation MAG, eh bien c'est avec Marine Noyen qui s'entretient avec Yo-Yo MAG, fille d'Adrien et petite-fille d'Aimé.
Yo-Yo MAG qui publie à l'occasion des 50 ans de la Fondation un livre, La Saga MAG chez Robert Laffont, un ouvrage en forme d'hommage à son grand-père Aimé. On y découvre son enfance entre Paris et Saint-Paul-de-Vence, choyé par les plus grands artistes du XXe siècle, de Picasso à Giacometti, Léger, René Char, Yves Montand et Simone Signoret. Une enfance marquée par les vernissages, les expositions, les soirées d'inauguration. Une enfance en liberté dans cette dynastie d'amoureux des arts qui aujourd'hui se déchire autour de l'héritage de ce grand-père. Bonjour Yo-Yo MAG.
Bonjour.
Vous signez sous le nom de Yo-Yo, mais votre prénom à l'état civil, c'est Françoise. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce surnom ?
Oui, oui, c'est devenu quand même mon prénom officiel également, Yo-Yo. Mais c'est Prévert qui m'a donné ce prénom quasiment à ma naissance, avec une blague tout à fait dans l'esprit dadaïste et surréaliste dans lequel mes parents et l'entourage de mes parents vivaient. Et effectivement, je ne vous cache pas, et tout le monde sait que Prévert était un anticlérical total. Et donc, il a voulu que je porte un prénom d'aucune sainte. Voilà, avec une blague, puisqu'on disait que j'étais une gosse trouvée un soir d'hiver sur les marches de Saint-Thomas d'Aquin. Et voilà, c'était un trait d'esprit.
Un autre artiste qui a beaucoup marqué votre enfance, un artiste majeur, c'est Braque. Oui. Quel souvenir vous gardez de lui, de son atelier ?
Alors Braque, c'est important, mais ce n'est pas le plus important pour moi, parce qu'il est mort, j'étais quand même assez jeune. En revanche, j'adorais sa douceur, parce que mes parents nous déposaient chez lui le jeudi, pour qu'on puisse être gardés, puisqu'à l'époque, c'était le jeudi que les enfants n'allaient pas à l'école. Et comme il était juste à côté du parc Montsouris, on allait, on va dire, se dépenser, courir, hurler au parc Montsouris. Et après, on revenait chez lui, où on avait des goûters pantagruéliques, et il était extrêmement gentille avec nous. Sa femme me faisait peur parce qu'elle avait des gros yeux globuleux, mais elle était vraiment merveilleuse. Et Varengeville aussi, c'était important puisqu'on allait en vacances à Varengeville. Mais celui qui a le plus compté pour moi, indiscutablement, c'est Miro. C'est lui qui a initié la fondation, en tout cas l'architecte, c'est lui qui a présenté l'architecte à mon grand-père. Il voulait m'apprendre, il voulait me transmettre. Donc il me montrait, rester des heures à regarder des cactus, à regarder la forme des cactus, à regarder une tomate déformée qui plus tard devient une sculpture représentant la féminité. Ça, c'est extraordinaire.
Aujourd'hui, vous êtes en conflit avec votre père en justice. Pourquoi avoir choisi d'en parler dans ce livre ?
Parce que à partir du moment où je retraçais, où je présentais pour la première fois, j'ai écrit plusieurs livres sur la fondation, sur l'histoire de mon grand-père, de ma grand-mère, de cette communauté artistique. J'ai fait des expositions, etc. J'ai toujours présenté MAG dans sa généralité, galerie, fondation, édition, peu importe, famille. Comme quelque chose de public et d'extérieur. À partir du moment où je raconte ma famille vue de l'intérieur, comme une petite fille, je commence mon livre, non pas comment je vois mon grand-père aujourd'hui, mais comment je le voyais à l'époque. J'ai essayé de retrouver les sentiments que j'avais quand j'avais 10 ans, 12 ans et jusqu'à 20 ans, un peu plus de 20 ans, quand mon grand-père décède. Donc, je m'arrêtais où ? C'est très difficile. Je m'arrêtais il y a 20 ans ? Je m'arrêtais à la mort de mon grand-père ? Non, parce que tout ce que j'ai fait après la mort de mon grand-père, m'a appris beaucoup sur mon grand-père. Moi, je suis partie à la recherche de qui était Aimé Mag. Du coup, j'étais obligée d'aller jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un conflit dans ma famille. Conflit avec mon père, très probablement. Je pense que le conflit, il est beaucoup plus fort avec ma sœur Isabelle, incontestablement. Voilà, mais c'est finalement une histoire de famille très très banale. Il y en a dans toutes les familles. Alors là, elle est un peu moins banale parce que rentre en compte des personnalités, puis des lieux visibles, mais c'est une grande banalité.
Et un héritage, je ne parle pas forcément en termes financiers, mais l'héritage de votre grand-père, son œuvre, qui est entre vos mains, entre les mains de votre famille aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ?
C'est peut-être là-dessus où moi je suis la plus étonnée. Je m'étonne qu'on ne comprenne pas mon grand-père. Je m'étonne qu'à l'intérieur de ma famille, on ne comprenne pas finalement quelle a été sa motivation et sa quête. L'esprit mag, c'est quelque chose qui est très difficile à écrire et à définir. Mon livre entr'ouvre, voilà, amorce un début d'explication. Je ressens les esprits mag, je ressens ce qui animait mes grands-parents, je ressens pourquoi les artistes leur ont fait confiance. L'expliquer, c'est beaucoup plus difficile. Et en revanche, je suis souvent choquée, ou en tout cas blessée, de l'incompréhension de ma sœur Isabelle et de mon père sur ce qu'était Aimé et Marguerite Mag.
Merci beaucoup, Yo-Yo Mag.
Merci à vous.
Merci Marine. Rendez-vous lundi pour une nouvelle chronique et pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était peinte et sculptée par notre petit atelier réunissant Corinne Amard, Lola Kahn, Marine Loyen, Brigitte Masson, Claudia Prolongeau et Martin Kénéen. Réalisation Michel-Ange Vinti. À la prise de son, Jean-Charles Aquenin de France Bleu Azur. Et au mixage, Cédric Châtelu. Et tout de suite sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Les Bonnes Feuilles de la rentrée littéraire par Sandrine Trainer et Augustin Trapenard.